Il est 11h30, Infomag, Nicolas Legrand.
Contrôle, mission de sécurisation, les forces de sécurité intérieure restent mobilisées sur le terrain. Hier, 15 personnes ont été placées en garde à vue pour la mise en place de barrages et de caillassages. Dans ce journal, on s'intéressera tout particulièrement au travail des FORMISC, les formations militaires de la sécurité civile qui interviennent pour déblayer les zones à risque. L'actualité en métropole, Michel Barnier assure le service après nomination. Le Premier ministre était l'invité du 20h de France 2 pour évoquer l'orientation de son gouvernement, mais aussi l'équilibre politique qu'il a trouvé. L'actualité internationale est l'ONU qui avertit d'une catastrophe imminente au Moyen-Orient. On assiste à une escalade dans la guerre entre Israël et le Hezbollah libanais. Le président américain Joe Biden lui s'est dit très inquiet des tensions au Moyen-Orient. Et puis dans cette édition, ce midi, nous irons à la plage. Beaucoup de Nouméens profitent du week-end de 4 jours et des nouveaux équipements anti-requins. Bonjour à tous et bienvenue dans Infomag pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Avant de développer tous ces titres qui font l'actualité ce midi, un coup d'œil au Mag des Sports, votre rendez-vous du lundi midi, avec aujourd'hui au menu Mickaël Juneski, un Olympico en football.
Le choc des Olympiques qui a souri aux Marseillais au bout du suspense, 3-2 sur le terrain des Lyonnais. Il y a eu du spectacle pour conclure en beauté une cinquième journée de Ligue 1 avec un total de 36 buts inscrits sur l'ensemble des rencontres. N'en déplaise aux supporters des Verts, principale victime de ce festival de buts, Saint-Etienne qui a subi la loi de Nice 8-0.
La Formule 1 et les cartes qui pourraient être rebattues avant la fin de saison.
Si Lando Norris roulait vers un titre mondial plus vite que prévu, c'est encore mathématiquement jouable pour le pilote McLaren, encore victorieux à Singapour avec sa 3e victoire de la saison. Il se rapproche inexorablement de Max Verstappen en tête du championnat du monde. Il reste encore 6 grands prix à courir cette saison.
Et comme toutes les semaines, nous passerons en revue l'essentiel des résultats et nous nous intéresserons plus particulièrement à la natation.
Ça aurait dû être une année olympique et une embellie pour tous les sports présents au JO, mais c'est une année chaotique, émeute, exaction qui impacte le monde sportif et la natation qui tente de sortir la tête de l'eau. Le premier meeting de la saison avait lieu ce dimanche au CNC. Nous évoquerons les perspectives pour la discipline, le calendrier, les objectifs de la Ligue avec son président Jean-Claude Robin ainsi que Stéphane Tichon, cadre technique de la natation calédonienne.
Rendez-vous donc à la fin de ce journal. Et je le disais en titre, les équipes de sécurité intérieure restent mobilisées pour ce week-end de 4 jours. 6000 policiers, gendarmes et membres de la sécurité civile sont à pied d'œuvre. Des contrôles et des actions de sécurisation sont organisées sur l'ensemble du territoire. Et il y a eu des troubles à l'ordre public hier soir, principalement en début de soirée. 15 personnes ont été interpellées au cours des dernières 24 heures. Comme les nuits précédentes, des barrages ont nécessité des interventions et les forces de l'ordre ont fait l'objet de prises à partie par des jets de projectiles. Des feux, principalement de végétation et d'entraves, ont rapidement été maîtrisés par l'action des pompiers. J'ajoute qu'un véhicule de la gendarmerie a également été la cible de jets de pierre à Point-d'Imier. Les forces de l'ordre qui sont appuyées quotidiennement par les FORMISC, les formations militaires de la sécurité civile, qui sont mobilisées en Nouvelle-Calédonie depuis la première semaine des émeutes. Ces sapeurs-sauveteurs ultra qualifiés interviennent aux côtés des gendarmes et des policiers pour déblayer les routes, Isabelle Pelletier.
Les premiers détachements de FORMISC sont arrivés sur le territoire peu après le 13 mai. Leur mission, déblayer les zones sensibles sur le Grand Nouméa, comme en brousse, sous la protection de la police et de la gendarmerie. Depuis le début des émeutes, c'est un volume impressionnant de carcasses et de déchets qui a été retiré de la voirie. Les précisions du directeur de cabinet du haut-commissaire Théophile de Lassus.
Je crois qu'il faut saluer le travail des formations militaires de la sécurité civile, c'est-à-dire des régiments de la sécurité civile qui travaillent pour le ministère de l'Intérieur et qui envoient des détachements depuis un peu après le 13 mai, d'à peu près 80 personnes qui travaillent jour et nuit pour déblayer les routes. À chaque fois que des entraves sont mises sur la circulation, c'est un travail très important. C'est plus de 2000 carcasses qui ont été déblayées depuis le 13 mai, plus de 1700 bennes qui ont été déblayées afin que les Calédoniens puissent vaquer à leurs occupations avec des routes propres, des routes accessibles, des routes sans entraves. Et ça, c'est le travail de ces militaires qui viennent depuis maintenant plusieurs mois au service de la sécurité des Calédoniens avec un dispositif qui est intégré entre police, gendarmerie et FORMISC pour qu'à chaque fois qu'il y ait une entrave, dès qu'elle est sécurisée, dès que la police ou la gendarmerie ont procédé au travail de sécurisation, éventuellement aux interpellations, et bien les FORMISC puissent, avec quelques sociétés privées de déblaiement, intervenir, récupérer les entraves qui sont mises sur la route et les emmener à un centre où on les regroupe.
Des détachements de 82 militaires sont envoyés pour une période de 5 semaines durant laquelle ils sont déployés sur l'ensemble du territoire. Les équipes des FORMISC se relaient jour et nuit aux côtés des forces de l'ordre. Le chef de bataillon Christian, des formations militaires de la sécurité civile.
Les 82 militaires sont répartis en différentes colonnes de déblaiement. Ce sont des petits groupes à pied avec des renforts d'engins TP et Ben, qui sont dispatchés soit intégrés directement dans les groupements tactiques de gendarmerie sur toute l'île et Nouméa, soit un travail jour-nuit avec la police nationale qui les escorte et ça, ils font de l'ouverture d'itinéraires ou du déblaiement de barrages dans les quartiers qui nécessitent l'intervention. On a des équipements de protection individuelle, au même titre que les gendarmes et les policiers, hein, de façon que nos sapeurs sauveteurs soient protégés. Ensuite, très concrètement, on part avec une colonne, gendarmerie ou police, on arrive sur un secteur. Une fois que c'est sécurisé par la gendarmerie ou la police, nos équipes travaillent, c'est-à-dire que les engins commencent à déblayer. Alors ça peut être de l'électroménager, du bois. Ces derniers jours, c'était essentiellement du bois, du petit gravat, mais ça peut être toutes sortes de matières, des pierres, des cailloux. Donc les engins dégrossissent le plus gros. Et ensuite, on a les petits groupes d'équipes à pied qui permettent de déblayer à la main tout ce que l'engin ne peut pas prendre.
Pour le directeur territorial de la police nationale, Jean-Marie Cavier, il s'agit d'un travail en étroite collaboration.
Ce dispositif est indispensable et complémentaire de l'action de la police puisque nous intervenons immédiatement dès que les barrages se mettent en place. Donc nous dispersons, nous interpellons si nécessaire et puis après les formistes déblaient, nettoient et remettent la voie publique en état en quelque sorte. C'est en adéquation avec le travail de police et quartiers dits sensibles qui posent encore quelques petites difficultés mais nous intervenons immédiatement en complément. Donc ces engins, camions et autres permettent d'être la voie publique en état de manière quasi simultanée avec la police. Quoi.
Une dizaine d'entreprises privées travaillent aux côtés des formisques et des forces de l'ordre. Les formations militaires de la sécurité civile représentent plus de 1400 sapeurs-sauveteurs qualifiés qui interviennent lors de missions spécifiques en métropole, par exemple sur les feux de forêt, dans les Outre-mer, comme à Mayotte ou encore en Nouvelle-Calédonie, mais aussi à l'étranger lors de catastrophes naturelles de type tremblement de terre.
Demain, c'est donc le 24 septembre et c'est un jour férié pour ce qui est devenu depuis 2004 la fête de la citoyenneté. Ce 24 septembre, c'est la date anniversaire du rattachement de la Calédonie à la France, il y a 171 ans, le 24 septembre 1853. Les collectifs de résistance citoyenne qui ont été créés après le 13 mai ont bien l'intention de célébrer cet anniversaire, en invitant d'ailleurs les Calédoniens à entonner la Marseillaise demain à midi, Elisabeth Noir.
C'est ce que nous a dit Willy Gattiot, porte-parole des collectifs de résistance citoyenne. Il était notre invité du matin à 7h30. Les CRC veulent célébrer le 24 septembre tout en respectant l'arrêté du haut-commissaire qui, vous le savez, interdit les rassemblements et les manifestations.
Nous sommes en résistance, nous sommes un collectif, et je tiens à insister là-dessus, nous ne sommes pas une milice. Donc nous respectons l'état de droit. Moi qui me réclame de la Calédonie française, il est tout à fait normal que je respecte les règles qui sont celles de la France. Donc il y a un arrêté du haut-commissaire qui interdit toute manifestation et tout rassemblement. Donc il est question pour nous d'observer et de respecter strictement cet arrêté pris par le haut-commissaire. Une fois ça dit, comment on exprime notre attachement et comment on célèbre ce 24 septembre, qui pour nous, c'est le rattachement de la Nouvelle-Calédonie à la France. Je laisse aux autres l'interprétation qu'ils font de cette date. Mais il est important pour nous de nous rappeler. Et c'est ça la résistance, rappeler que cette terre est bien une terre française. C'est le devoir de mémoire, de se souvenir de ça. Et ça, c'est important. Sinon, on perd tout.
Et dans le respect de l'arrêté du haut-commissaire, les collectifs de résistance citoyenne ont donc pris une initiative qui sera relayé sur Radio Rythme Bleu.
L'arrêté est pris, donc il fallait qu'on trouve une idée. Et cette idée, elle est réalisable aujourd'hui, celle que je propose pour demain, grâce à vous. Donc il s'agit de quoi, pour ce qui nous concerne, c'est qu'on invite tous les Calédoniens à une communion. Cette communion se déroulera, mais de manière très précise, à midi. Demain, communion dans le sens où nous invitons, j'invite tous les Calédoniens à l'unisson, à entonner la Marseillaise. La Marseillaise, à midi précis, cette Marseillaise sera diffusée sur les ondes de ERB. Cette Marseillaise, elle va durer pas plus d'une minute. Qu'est-ce qu'une minute dans la résistance? Qu'est-ce qu'une minute pour rappeler le choix de la majorité des Calédoniens par trois fois? Cette terre est une terre française. Une minute à consacrer. Donc j'invite les Calédoniens, demain à midi, à se brancher sur les ondes d'ERB, à midi précise. D'ailleurs, je serai sur ce même plateau quelques secondes avant et j'entonnerai la Marseillaise en direct.
Les CRC invitent les Calédoniens à entonner la Marseillaise demain à midi. Ils les invitent aussi à afficher leurs couleurs, en l'occurrence le bleu, blanc, rouge.
Ça sera l'occasion surtout pour nous d'afficher les couleurs qui sont les nôtres, qui portent un certain nombre de valeurs, des valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité. Donc nous avons procédé depuis vendredi à la distribution de milliers de drapeaux. Et ces Calédoniens qui sont aujourd'hui détenteurs d'un drapeau bleu, blanc, rouge, nous les invitons à les afficher sur leur balcon, dans leur véhicule, où qu'ils soient le 24 septembre, c'est-à-dire demain à midi, où que les Calédoniens se trouvent sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, toutes affaires cessantes, à l'unisson, en communion, nous allons tous entonner la Marseillaise.
Une initiative prise alors que le 24 septembre se déroule sous tension, 4 mois après le début des violences insurrectionnelles, et alors qu'un important dispositif de force de l'ordre a été mis en place. Mais Willy Gattuo refuse qu'on l'accuse de faire de la provocation.
Ah mais ça, j'ai du mal à l'entendre. Dès lors que le camp qui est le nôtre prend des initiatives, c'est de la provocation. Alors, à quoi on assiste depuis le 13 mai? Si c'est pas de la c'est plus que de la provocation. Ils ont mis à terre 30 ans, 30 ans de vie commune, 30 ans de développement. J'entends bien les arguments qui sont développés en face. C'est le résultat des politiques des gouvernements précédents, pour pas dire loyalistes. Mais je rappelle ici que le gouvernement est collégial. Vous pouvez ressortir les archives. Hein. Sur les mesures majeures qui ont été prises ces 30 dernières années, je ne me souviens pas une opposition des membres du gouvernement indépendantiste. Jamais. Donc, facile. Facile. Donc voilà, assumons ensemble. Parce que la vérité, c'est soit on rebondit ensemble, soit on échoue ensemble.
La collective de résistance citoyenne appelle donc à célébrer le rattachement de la Calédonie à la France demain 24 septembre en entonnant la Marseillaise à midi précise. Une initiative qui sera relayée par Radio Rythme Bleu qui diffusera l'hymne national demain à midi.
Une interview de Willy Gattuo à retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site internet rrb.nc. Je rappelle que pour ce long week-end, le couvre-feu reste en vigueur la nuit prochaine encore, hein, de 18h à 6h, que la vente d'alcool est interdite, tout comme le port et le transport d'armes. Les rassemblements et manifestations sur le domaine public sont également prohibés. Et puis, du côté des informations pratiques, le stationnement est interdit sur le parking de la Moselle jusqu'à mercredi matin en raison de l'interdiction de rassemblement. Et j'ajoute que la mairie de Nouméa a aussi pris un arrêté pour interdire la circulation des engins nautiques motorisés demain en raison du dispositif de sauvegarde maritime. Il est mis en place par l'État. Cela concerne la bande littorale des 300 mètres au niveau de Lanzobœuf à Nouville, de la baie des Citrons, de la plage de Lanzvata et du Château Royal. Des dispositifs en lien avec le 24 septembre, bien sûr. Le 24 septembre, il en est aussi question dans la chronique de la semaine écoulée et on retrouve comme tous les lundis Elisabeth Noir.
On a connu des 24 septembre plus festifs que celui qui s'annonce demain. Ce fut d'abord le 24 septembre 1953, quand toute la Calédonie célébrait le centenaire de son rattachement à la France. Et la Calédonie a continué à commémorer cette date qui rappelle la première levée du drapeau français sur le territoire à Balade par l'amiral Février des Pointes, même si dans les années 70, les indépendantistes ont voulu en faire un jour de deuil. Une date célébrée encore le 24 septembre 2003 avec les festivités des 150 ans marquées par l'édification du Moïka qui devait symboliser l'avenir en commun dans l'esprit de l'accord de Nouméa. Sans oublier à partir de 2004 la création par Dewe Gorodé de la fête de la citoyenneté qui est censée célébrer le vivre ensemble de toutes les communautés qui coexistent en Nouvelle-Calédonie. 4 mois après le déclenchement des violences insurrectionnelles du 13 mai, le cœur n'y est pas. Et le 24 septembre 2024 ne sera pas festif. Il sera sous tension et sous haute surveillance avec l'opération Vague Bleue lancée par les forces de l'ordre sur l'ensemble du territoire pour ce long week-end de ferraillé. L'État fait du bleu et il l'assume avec 6000 policiers, gendarmes et militaires sur le terrain, des effectifs 7 fois supérieur à ce qu'ils étaient au mois de mai. Le 24 septembre ne sera pas le 13 mai, martèlent les différentes autorités. Une façon de déjouer les velléités de ceux qui auraient voulu s'emparer de cette date symbolique pour continuer les exactions, voire, comme certains l'avaient un temps envisagé, de se livrer à une hypothétique déclaration unilatérale d'indépendance. Le retour à l'ordre public reste la priorité absolue réclamée par les Calédoniens. Ils n'en peuvent plus des diverses actions, même résiduelles, menées par des émeutiers que plus personne ne contrôle. Et ils n'en peuvent plus du blocage de la RP1, qui isole complètement le sud de la Calédonie. La solution, chacun en convient aujourd'hui, et même recommitant, c'est la reddition des individus recherchés, réfugiés dans la tribu de Saint-Louis. C'est la condition du retour à la normale, n'en déplaise au FLNKS, version UCCCATRDO, qui s'est complètement discrédité en accusant la France de génocide et en prenant la défense de militants fanatisés et radicalisés. Autant dire que le dossier calédonien devrait être en haut de la pile des priorités du tout nouveau gouvernement Barnier et de son ministre en charge des Outre-mer, François-Noël Buffet. Ça tombe bien, il connaît parfaitement la situation calédonienne et avec ses collègues de la commission des lois du Sénat, il a présenté il y a quelques mois une méthode qui tient en 6 propositions, dont les premières sont l'urgence de renouer le dialogue, de garantir l'impartialité de l'État et de consolider son rôle de proposition sur le dossier calédonien. Pour le coup, il va pouvoir passer du discours à la méthode et son rattachement à Matignon signifie que le Premier ministre suivra directement et de très près la situation de la Nouvelle-Calédonie. C'est indispensable alors que le territoire sollicite tout à la fois en urgence les actions de la place Beauvau pour la poursuite de la sécurisation et celle de Bercy pour répondre à l'effondrement de notre économie. Une situation telle que même les indépendantistes sont en état de sidération. Le Palika s'émeut de voir le Congrès réclamer 500 milliards à l'État. Quel est le meilleur moyen de démontrer que l'indépendance n'est pas viable ? Interroge Jean-Pierre Diaoué, qui reconnaît que la question est de savoir comment on va faire pour se redresser sans l'aide de la France. Une question qui interpelle, alors que l'on célèbre justement les 171 ans du rattachement.
La chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir, que vous pouvez retrouver en podcast sur notre site internet, le www.rrb.nc. Vous pourrez aussi la réécouter à 16h sur l'antenne de Radio Rythme Bleu.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Êtes-vous satisfait que le ministère des Outre-mer soit désormais rattaché directement au Premier ministre ? Si vous êtes satisfait, vous tapez 1, sinon vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à notre question du jour. Il est 11h47, on va parler du gouvernement Barnier juste après la publicité puisque le Premier ministre a expliqué ses choix sur le 20h de France 2.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Préservez votre habitation contre les termites avec Formula 4D.
Traitement de charpente, pièges préventifs et barrières chimiques.
Déductible de vos impôts. Info sur formula4d.com.
À vos côtés depuis 40 ans.
Savez-vous que quand plusieurs appareils sont branchés au même endroit, il est préférable de les brancher sur une multiprise équipée d'un interrupteur ? On peut ainsi couper l'alimentation de tous les appareils d'un seul geste.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Nicolas Legrand.
Je vais dire la vérité aux Français, promesse de Michel Barnier. Il était l'invité du journal télévisé de 20h de France 2. Première intervention du Premier ministre depuis la nomination de son gouvernement ce week-end. Il a reconnu que la tâche était difficile et Michel Barnier a aussi clarifié l'orientation politique qu'il souhaite donner à ce gouvernement, Alexandre Chauveau.
Oui, après avoir renouvelé son souhait de voir le gouvernement agir plus que parler, Michel Barnier explique l'équilibre politique de sa nouvelle équipe.
Ce que j'ai essayé de faire, c'est de constituer un socle qui soit le socle le plus important de l'Assemblée nationale. Et c'est le cas. 220, 230 députés, c'est plus que les autres coalitions ou socles qui existent, soit sur notre gauche, soit sur notre droite.
Le Premier ministre promet de ne pas alourdir les impôts sur les classes moyennes et populaires, mais ne s'interdit pas, pour rééquilibrer le budget, certains prélèvements ciblés.
Je ne vais pas exclure dans l'effort national qu'il faudra faire que les personnes les plus fortunées participent à cet effort national.
Faisons très attention à la crédibilité de la France, alerte Michel Barnier, qui ouvre à nouveau la voie à une amélioration de la réforme des retraites. Sur l'immigration, le Premier ministre entend s'inspirer des pays européens qui s'attellent à réduire les flux migratoires.
Ce que fait un chancelier socialiste en Allemagne, ce que fait un ministre socialiste au Danemark, ce que fait un Premier ministre socialiste au Royaume-Uni, ça devrait nous interpeller. Je pense qu'on doit traiter cette question de l'immigration avec beaucoup plus de rigueur. Il y aura des ruptures, beaucoup plus de fermeté, en même temps de l'humanité. C'est la ligne que je vais suivre avec M. Retailleau.
Michel Barnier qui balaie enfin les rumeurs sur une éventuelle politique anti-mariage pour tous ou anti-IVG. Il n'y a aucune ambiguïté, affirme ce soir le Premier ministre.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Autre déclaration, je quitte une équipe compromise. Éric Ciotti claque la porte du Parti Les Républicains. Un mois après avoir lancé l'Union des droites pour la République, le président du parti démissionne. Le député des Alpes-Maritimes était contesté dans son propre camp après son rapprochement avec Marine Le Pen et Jordan Bardella lors des législatives. Plusieurs procédures d'exclusion avaient été lancées par des cadres du parti. L'actualité à l'étranger maintenant est l'ONU qui avertit d'une catastrophe imminente au Moyen-Orient. Une déclaration en pleine escalade militaire entre l'armée israélienne et le Hezbollah libanais, allié du Hamas et soutenu par l'Iran. Après des dizaines de morts et des milliers de blessés liés à l'explosion de moyens de télécommunication imputés à Israël, d'intenses tirs transfrontaliers ont eu lieu ce week-end. 150 roquettes, missiles de croisière et drones ont été tirés depuis le Liban sur le nord de l'État hébreu. Une escalade militaire n'est pas dans l'intérêt d'Israël, prévient le porte-parole de la Maison-Blanche. De son côté, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, lui, a redit toute sa détermination et reconnu du bout des lèvres l'attaque des beepers.
Ces derniers jours, nous avons infligé au Hezbollah une série de coups qu'il n'aurait jamais imaginé. Si le Hezbollah n'a pas compris le message, je vous le promets, il le comprendra. Nous sommes déterminés à faire en sorte que les habitants du Nord puissent revenir chez eux en toute sécurité. Aucun pays ne peut tolérer qu'on tire sur ses habitants, sur ses villes. Et nous, l'État d'Israël, ne le tolérerons pas non plus. Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour rétablir la sécurité.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, le président américain Joe Biden, lui, s'est dit inquiet des tensions au Moyen-Orient. Il a assuré faire tout son possible pour éviter un élargissement du conflit. Nous allons faire tout notre possible pour éviter qu'une guerre plus large n'éclate et nous poursuivons nos efforts. Fin de citation. En bref, un véritable scandale en Malaisie, et le mot est faible. 355 personnes ont été arrêtées pour des agressions physiques et sexuelles d'enfants dans des foyers d'accueil appelés désormais les foyers de l'horreur. 186 enfants ont été secourus au cours de cette opération. Plusieurs suspects font partie d'un conglomérat islamique accusé d'avoir géré ces centres et d'avoir entretenu des liens avec une secte interdite. En Australie maintenant, le ministre de l'économie et du budget va se rendre en Chine. Il l'a annoncé lors d'un entretien télévisé, un déplacement prévu cette semaine pour évoquer les relations qui unissent déjà les deux pays. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Jim Chalmers a rappelé d'emblée que la Chine est le premier partenaire commercial de l'Australie. Il a cependant jugé qu'il importait, je le cite, « de raffermir davantage encore cette position ». Cela, a-t-il expliqué, fait partie des efforts que nous avons déployés pour stabiliser une relation économique importante. C'est une relation pleine de complexité, mais aussi pleine d'opportunités, a-t-il ajouté, et nous pensons que l'on en retire davantage en s'engageant comme nous l'avons déjà fait. Raison pour laquelle il se rendra à Pékin jeudi et vendredi en vue d'y rencontrer des hauts fonctionnaires de la Commission chinoise des réformes et du développement national. La stabilisation de nos relations avec la Chine est une priorité économique essentielle, a-t-il dit. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu, il est 11h passé de 53 minutes. On va marquer une pause publicitaire dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité en Nouvelle-Calédonie avec notamment un magasin qui rouvre du côté de Ducos. Il s'agit de Jiffy ou encore les plages qui sont bondées.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Du lundi au vendredi sur Radio Rythme Bleu, Cheyenne raconte une histoire aux tout-petits vers 19h20.
Raconte-moi une histoire avec Petit Dôme, la boutique des tout-petits. Petit Dôme, c'est aussi et toujours les listes de naissance, de Noël, de baptême et d'anniversaire accessibles sur Internet. Chez Petit Dôme, on n'hésite plus, on y va.
RRB toujours à vos côtés. Depuis le début des émeutes qui secouent la Nouvelle-Calédonie, les équipes de Radio Rythme Bleu se sont mobilisées pour vous informer, vous accompagner et pour faire vivre votre antenne.
Malgré l'insécurité, les tensions et les difficultés de déplacement, nous nous sommes engagés pour répondre à votre confiance et à votre fidélité.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La suite d'Infomag avec le reste de l'actualité sur le territoire, on retrouve Nicolas Legrand.
Et la réouverture des magasins Jiffy à Ducos et Koumac, alors que de nombreux commerces passent la clé sous la porte ou rencontrent d'énormes difficultés. L'enseigne de distribution a donc rouvert vendredi dernier, Charlotte Coulson.
Oui, elle était fermée depuis février. Le magasin situé à Ducos avait changé de gérance, puis était en travaux. La réouverture a ensuite été empêchée par les émeutes déclenchées le 13 mai. L'équipe, qui a un temps était en chômage partiel, a donc enfin pu reprendre son activité. Soana est employée de Jiffy Ducos et Vaitiari responsable.
On a fermé pour les travaux, mais après il y a eu les émeutes, ce qui a prolongé après la fermeture. Après nous, on était amenés à être en renfort dans les magasins discount. Et après ça, on est revenu ici sur Jiffy pour pouvoir faire la réouverture des deux magasins, y compris celui de Koumac. On n'a plus à Pogoti. Du coup, l'équipe, elle se retrouve ici sur Jiffy Ducos en renfort parce que là, il reste que Vaitiari et Tiffany.
Ça nous fait du bien parce qu'on retrouve notre magasin et puis voilà, on est content.
Il n'y a pas d'appréhension, au contraire. On avait hâte, on n'avait qu'une seule envie, c'était de réouvrir et de continuer. Malgré tout, il faut continuer, il faut se relever.
Une reprise donc attendue des employés, mais aussi des clients. Ils étaient nombreux ce samedi à arpenter les rayons du commerce. Et ce matin aussi, ils se réjouissaient de retrouver des articles de décoration, de mobilier ou encore de jardinage à petit prix.
Eh bien, écoutez, on est venu découvrir avec des amis, on ne connaissait pas. Comme ça a réouvert, alors on est venu voir plutôt la décoration pour la maison, ou les petites choses utiles. C'est vraiment bien, il y a beaucoup de choix et des prix abordables. Ça nous a manqué, hein. Voilà, ça nous fait passer un peu de temps entre amis et puis faire quelques achats.
Comme je prenais un petit week-end en famille, du coup, j'en ai profité pour faire un petit tour et voir ce qu'ils proposaient. Tout ce qui est déco pour la maison, oui, puis bien sûr les tarifs, bien sûr. Trouver un petit truc qui me plaît, du coup, je vais le prendre, ouais.
Ce sont mes amis qui me l'ont dit ce matin. Donc, je découvre très, très bien. Plus grand, beaucoup plus de choses et puis très abordable. Très heureuse de retrouver Jiffy.
Les magasins de Ducos et de Koumac ont tous les deux rouvert du lundi au samedi de 8h à 17h.
Dans l'actualité économique toujours, les entreprises ont dû s'adapter aux horaires du couvre-feu qui débute donc à 18h et se termine à 6h du matin jusqu'à mercredi. C'est le cas de la plupart des restaurants qui ont dû sacrifier leur service du soir pour permettre à leur clientèle et à leurs employés d'être rentrés avant 18h. Des adaptations qui impactent énormément les restaurants, comme l'explique Jennifer, la gérante du restaurant Beach House.
Là, c'est sûr qu'on peut diviser le chiffre en deux. C'est clair et net que sans le service du soir, ça nous impacte quand même pas mal pour le samedi, dimanche et puis le reste des jours, en fait. Le week-end, le samedi, dimanche, c'est pour la plupart des gens, la baie des citrons, c'est nos plus grands chiffres. Mais là, on a vu que par rapport à hier, dimanche et même samedi, c'était beaucoup plus calme, en fait. On sentait que les gens ne voulaient pas forcément sortir et appréhender un petit peu ce qui allait se passer. En termes d'organisation, c'était vraiment juste pour s'assurer qu'on allait avoir nos commandes livrées pour le lundi et le mercredi, en sachant que demain, mardi, tout le monde est fermé, en fait, par rapport aux fournisseurs. Je pense que c'est dur pour nous, mais c'est dur pour tout le monde, donc on fait avec, c'est comme ça.
Et en ce lundi ensoleillé, de nombreuses familles ont tout de même profité des terrasses, des restaurants pour prendre un brunch en face de la mer.
On en profite pour sortir et pour manger dehors. Et c'est vrai qu'un couvre-feu à 20h, ça ne m'aurait pas dérangé pour voir le sunset. On a décidé de prendre l'option d'aller en mer. Donc hier, c'était la mer. Aujourd'hui, on veut profiter encore en mangeant de bonnes choses au restaurant. Et on se prépare à rentrer avant 18h. Donc super bon week-end où on a profité pour se reposer, se ressourcer, passer des bons moments face à la mer, en famille. Et jusqu'à mardi comme ça.
Eh ben avec un soleil comme ça, on est obligé d'en profiter un maximum, quoi. Le sport le matin, la petite terrasse le matin, voilà, on se fait plaisir de temps en temps. Après une semaine de travail bien méritée, voilà. Et peut-être qu'on ira se baigner cet après-midi.
C'est vrai que ça fait tôt le soir à 18h, mais voilà, on va dire que c'est sur quelques jours et puis on va essayer de retrouver une vie normale dans les prochains jours qui vont arriver.
Et on rappelle que les bars et restaurants ferment pour la plupart à 17h afin de permettre aux clients mais aussi au personnel d'être chez eux pour le couvre-feu qui débute à 18h. C'est donc un long week-end de 4 jours ensoleillés. Beaucoup de Nouméens profitent donc des terrasses, vous l'avez compris, mais aussi des plages. Et depuis samedi, la plage du Château Royal attire de nombreux amateurs de baignades et de bronzettes. Il faut dire que la nouvelle barrière anti-requins inaugurée il y a 10 jours en fait une zone attractive.
Ça fait longtemps qu'on n'est pas venu. On est venu en profiter.
On est venu passer une bonne journée avec ce soleil magnifique là qu'on attendait depuis un petit moment. Et en plus de ça, depuis qu'ils ont posé le filet anti-requins, c'est hyper rassurant et ça se voit parce qu'il y a de plus en plus de monde du coup qui commence à revenir.
On est venu avec nos amis là. Depuis samedi, on vient tout le temps ici. Depuis qu'il y a le filet, c'est sûr, bah, c'est vrai qu'on se sent plus en sécurité. Plus il y a le radeau aussi, du coup, bah, ça nous donne plus envie de venir ici.
Ce filet anti-requin, ma foi, il est bien, ça permet de nager un peu plus loin.
Vis-à-vis des enfants et même de moi, finalement, c'est un peu plus rassurant avec la barrière anti-requin.
Quand je viens là, je profite plus du sable et de la mer et je m'amuse beaucoup dans l'eau.
Et puis il s'agit donc de la deuxième zone de baignade sécurisée à Nouméa. Je rappelle que la barrière anti-requin de la baie des Citrons avait été inaugurée depuis le mois de novembre 2023. Il est 11h59, vous écoutez Radio Rythme Bleu. On va marquer une pause dans ce journal et ensuite on ouvre le Mac des Sports avec tout d'abord les résultats sur la scène nationale et internationale. Et ensuite, on s'intéressera à l'actualité sportive en Nouvelle-Calédonie et notamment à la natation avec nos invités.